Bienvenue à vous au Centre Sèvres pour cette soirée avec Bernard Potier. Bienvenue également aux auditeurs de RCF puisque cette soirée est retransmise sur les ondes. Le 12 mai 2016, lors d'une rencontre du pape François avec des responsables des congrégations religieuses féminines, une des participantes a demandé au pape pourquoi l'Église n'acceptait pas d'ordonner des femmes diacres. Et, surprise, le pape a répondu que la question pourrait être examinée et que pour cela, il envisageait la création d'une commission. 3 mois plus tard, en août 2016, une telle commission est lancée et elle rendra ses conclusions 2 ans après, en juin 2018. Parmi les 12 membres de cette commission, il y avait le père Bernard Potier qui est avec nous ce soir. Quel a été le travail de cette commission? Sur quoi a-t-elle débouché? C'est ce que nous allons découvrir avec Bernard Potier. En essayant de mesurer aussi quels sont les enjeux de cette question pour l'Église. Qu'est-ce que cela ferait dans l'Église si demain nous avions des femmes diacres? Bernard Potier est théologien, jésuite, responsable du Forum Saint-Michel à Bruxelles. Il est membre de la Commission théologique internationale et il a notamment co-rédigé un livre avec Alphonse Borat qui s'intitule « La grâce du diaconat », sorti chez Lessus en 1998. Sa spécialité en théologie est dans le champ de la patristique. Il a fait sa thèse sur Grégoire de Nice, mais le père Potier a aussi une formation en psychologie et en philosophie. Comment cette commission a-t-elle travaillé? Comment l'Église peut-elle réfléchir à cette question d'un diaconat féminin? Je vous laisse la parole, père Bernard Potier.
Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, en effet, je vais vous parler en tant que membre de la commission pontificale qui a été érigée par le pape François en août 2016 pour étudier la question des faits historiques du premier millénaire autour de la question des femmes diacres. Alors voilà, cette nomination a été un peu une nomination surprise pour moi, au sens où, les 6 hommes et 6 femmes qui ont composé cette commission n'ont pas été contactés avant d'être nommés. Tout à coup, nous avons appris, en août 2016, que le pape avait nommé une commission et les 12 noms étaient sur Internet. Voilà, alors je n'étais pas très convaincu lorsqu'on me l'a dit, donc j'ai été voir et en effet il y avait là une commission de 12 personnes, 6 hommes et 6 femmes. Je connaissais quelques-unes de ces personnes pour d'autres raisons et je pense que le pape François a voulu répondre assez rapidement à l'invitation qui lui avait été faite par les supérieurs générales. Alors, je ne citerai aucun nom des personnes qui se trouvent dans cette commission. Vous pouvez les trouver encore sur Internet si vous voulez, sauf Madame Phyllis Zagano, qui est une Américaine, professeure de recherche à l'Université d'Ofstra à New York, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, en fait. Nous avons publié récemment un article, d'ailleurs, dans Laval philosophique et théologique, une revue canadienne. Peut-être que demain, d'ailleurs, si des personnes veulent travailler un petit peu au séminaire que nous avons prévu dans la matinée, nous prendrons cet article, nous verrons. Comme vous l'a dit le père Étienne, le pape a répondu à une demande des supérieurs générales. Nous étions 6 hommes et 6 femmes, théologiens, théologiennes, de tendances diverses, ça c'est important à dire, je crois. Ça se voyait au premier coup d'œil. Et j'ajoute que c'était sans doute la première commission pontificale à parité parfaitement égale. Je ne vois pas d'autres commissions pontificales dans l'histoire où il y avait 50-50 entre les hommes et les femmes. Alors de temps en temps, il y en a quelques-unes, oui, par exemple à la Commission théologique internationale, 30 personnes, pour le mandat de 2014 à 2019, il y avait 5 femmes et 25 hommes. C'était déjà un peu mieux que la précédente où il y avait 2 femmes. Donc ça progresse, mais ici, carrément 50-50. Alors, après la restauration du diaconat permanent masculin, après le Concile Vatican II, le synode général des évêques d'Allemagne fédérale, en 1972-75, je parle à la Belge bien sûr, avait étudié la possibilité également pour les femmes de recevoir l'ordination diaconale. Et des spécialistes comme Congar, Unormann, Forgrimler n'y voyaient aucune objection d'ordre dogmatique. Donc ils ont présenté la question au pape à Rome et un document est arrivé, un document signé par la CDF, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui s'appelait Inter Signores en 1976. Que disait-il ce document? Donc la question était « quid d'une ordination diaconale ?» La réponse était « non à l'ordination des femmes prêtres ». Ah. Quelques années plus tard, la demande a été répétée par non seulement par les évêques allemands, mais aussi par les Américains. Et en 1994, nous avons eu le document Ordinatio Sacerdotalis, qui cette fois-ci émanait directement de Jean-Paul II, et qui fournissait la même réponse. Pas d'ordination sacerdotale. Alors comment faut-il entendre ce refus? Est-ce que ça veut dire que donc on ne répond pas à la question sur l'ordination diaconale, on la laisse ouverte? Eh bien oui, il semble bien que ce soit le cas, puisque la Commission théologique internationale, la CTI, a étudié la question en 2002-2003. Elle a produit un texte dont la conclusion est « Les femmes diacres du passé ne sont pas l'équivalent des diacres de leurs contemporains, de leur époque. » Et la décision d'une ordination diaconale, eh bien, relève du pape, finalement. C'est l'autorité suprême dans l'Église qui peut en décider. Et donc on laissait de nouveau la question ouverte en 2002-2003. Donc, je vous ai dit, 76-94, je fais un petit effort pour les dates, Et on a dit non à l'ordination presbytérale, et en 2002-2003, on dit peut-être pour l'ordination diaconale. Alors en fait, la polémique ne date pas d'hier. Elle est assez ancienne. Les érudits discutent pour savoir si les ordinations diaconales du passé, du premier millénaire, c'est surtout au premier millénaire qu'il y en a eu, eh bien étaient de vraies ordinations diaconales du sacrement de l'ordre. Il y a un érudit qui s'appelle Roger Grison, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur à l'université de Louvain-la-Neuve, qui dit que oui, ce sont des vraies ordinations. Et un Français, Aimé Georges Martimore, dit que non. C'est un bénédictin qui a surtout travaillé à Rome, je crois. Et voilà, on a toujours les partisans de l'un et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse question herméneutique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que comment faut-il comprendre ce qui se faisait dans le passé? Si nous le comprenons avec les critères d'aujourd'hui, je crois que nous ne le comprenons pas vraiment. Que faisaient les évêques lorsqu'ils ordonnaient, où ils bénissaient, où ils consacraient une femme qu'ils appelaient ensuite diacre ou diaconesse? Il faut se placer dans le contexte de l'époque. Si on prend aujourd'hui les textes dogmatiques concernant le diaconat pour interpréter ce qui s'est fait dans le passé, évidemment qu'on fait une erreur, à mon avis, herméneutique, on fait un anachronisme. Notre commission a toujours un peu buté sur cette question. Je vous ai dit que nous étions de tendances assez diverses, et le pape François avait désigné Monseigneur Ladaria, qui était le secrétaire de la CDF, donc la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, son secrétaire, et non pas le cardinal préfet, qui était Monseigneur le cardinal Gerhard Müller. Nous travaillions dans les bâtiments de la CDF, dans les bâtiments du Saint-Office. Mais le cardinal Müller avait écrit plusieurs fois contre la possibilité d'ordonner des femmes à quelque degré que ce soit. Alors c'est évident que lui confier la mission d'une commission, c'était sans doute un peu difficile, donc on l'a confié à son secrétaire. Mais vous voyez qu'on était quand même un peu sous tension, dans cette commission. Alors, le document de 2002-2003, donc comme je vous ai dit, a conclu qu'il revient au ministère du discernement que le Seigneur a établi dans son Église, ça veut dire le pape, de se prononcer avec autorité sur la question. La question restait donc ouverte. Mais, entre-temps, certains évêques américains, je pense, ont vraiment eu l'intention, l'ont-ils fait, je ne me suis pas renseigné suffisamment, mais de passer à l'action et d'ordonner des femmes. Il paraît qu'il y a des diocèses qui se disent catholiques, mais bon, où il y a des femmes prêtres ordonnées. Je n'ai pas fait d'enquête précise. Mais donc c'était un gros problème aux États-Unis, au Canada, et on a fait remonter ce problème à Rome. Et donc en 2007, 2008, 2010, il y a eu des décrets très sévères pour condamner les évêques qui ordonneraient des femmes, à quelque degré que ce soit. Alors c'est important parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église aussi qu'on prend un décret tel que celui-là, qui condamne l'évêque qui ordonne une femme. Autrefois, j'en parlerai un peu plus loin, autrefois il y a des évêques qui le faisaient et ils ne tombaient pas sous le coup d'une condamnation, d'une excommunication, etc. Donc ça signifie qu'à cette époque-là, eh bien, ça n'avait pas la même gravité, la même sévérité qu'aujourd'hui. Notre commission donc a buté constamment. Vous savez que donc le rapport a été remis en juin 2018. Il a fallu un certain temps pour savoir ce qu'il en était de ce rapport, et finalement le pape a dit qu'il était un peu déçu de ses conclusions. Parce qu'en effet, notre commission, de tendances diverses, comme je vous ai dit, a constamment buté sur trois obstacles, je crois, de nature herméneutique. Qu'entend-on par ordination au premier temps de l'Église? Qu'entend-on par ordination? Aujourd'hui, les choses sont bien claires, il y a eu 2000 ans d'histoire, 2000 ans de réflexion canonique, etc. Il y a des rituels et tout, mais vous vous rendez bien compte qu'au 1er, 2e, 3e siècle, il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, c'est là que tout a commencé, avec sans doute une liberté, une richesse qui était tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Et petit à petit, les choses se sont régulées, se sont été mises en règle, etc. Mais qu'entend-on donc par ordination au tout premier temps de l'Église? Voilà, ça c'est une question très difficile à discerner, avec ce danger d'anachronisme, comme je vous le disais. Est-ce que ces ordinations étaient un sacrement, un vrai sacrement? Alors les adversaires disent non, c'était simplement une bénédiction. Mais on trouve dans certains textes qu'on bénissait les prêtres pour en faire, on bénissait des hommes qui se présentaient pour le sacerdoce pour en faire des prêtres. On utilise ce mot de bénédiction dans certains textes. Le vocabulaire est un peu flou. En grec, il y a le mot kairotonia et kairotesia. Kairotonia, c'est étendre la main. Kairotesia, c'est poser la main. Ce sont deux termes qui reviennent dans les rituels. Et à mon avis, tout au début, ces termes sont à peu près équivalents. Ce sont des termes qui se valent l'un l'autre, on utilise l'un ou l'autre. Mais avec le temps, on a commencé à préciser, à dire que l'un était plus important que l'autre, qu'il ne fallait pas confondre, etc. Mais je crois que des spécialistes disent que cette distinction aussi nette n'est apparue que plus tard. Et alors, ironie du sort, c'est quand les latins ont traduit kairotonia, ils ont dit impositio, et kairotesia, ils ont dit impositio aussi. Donc on est revenu à un vocabulaire identique pour les deux. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui se passent lorsqu'on étudie les textes. Alors vous savez sans doute que le sacrement de l'ordre, c'est un des sept sacrements. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Mais c'est un des sept sacrements depuis quand? Ben, depuis qu'il y en a sept. Depuis qu'il y en a sept. Parce que le septénaire, comme on dit, les sept sacrements, le septénaire a été établi à partir d'un certain moment. En 1149, on trouve pour la première fois dans un texte qu'il y a sept sacrements, les voici, et il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Alors ça a été consacré par le Concile de Trente, etc., bien sûr, en opposition avec la Réforme. Mais c'est la réforme grégorienne qui a mis de l'ordre dans tout ça. Alors vous allez me dire, mais enfin, comment se peut-il qu'il n'y ait pas sept sacrements? Ben, il y a toutes sortes de choses qui pouvaient être considérées comme sacrements. Je crois qu'en France, on connaît très bien la question du sacre du roi. Eh bien, c'était considéré comme un sacrement. C'était une grâce qui était donnée au roi pour gouverner son peuple. Le lavement des pieds, les funérailles, toutes ces choses-là étaient considérées par certains comme des sacrements. Et il y avait un flou, je dirais, qui ne gênait personne, parce que, voilà, c'était des gestes symboliques, des gestes liturgiques qui faisaient passer la grâce, qui appartenaient à la liturgie, à la piété, etc. Et on n'était pas dans cette rigueur, hein, que la réforme grégorienne est venue mettre à partir du pape Grégoire VII, donc 11e, 12e siècle, c'est là qu'a commencé la science canonique. Et donc on a mis en forme toutes ces règles. Et je crois qu'au premier millénaire, avant donc tout cela, il y avait une beaucoup plus grande souplesse. Et le fait aussi que l'Orient et l'Occident, malgré les difficultés qu'il y a toujours un peu eues, eh bien, vivaient dans la même Église unie, faisait que l'Orient rééquilibrait un petit peu l'esprit de l'Occident. Mais à partir de 1054, comme vous savez, il y a eu cette scission entre l'Église de Rome et l'Église de Constantinople. Et je crois que 1054 est une date très importante qui a donné l'occasion à l'Occident de former l'esprit de l'Église latine catholique de Rome, hein, beaucoup plus juridique, beaucoup plus rationaliste, beaucoup plus pour mettre les choses en ordre, beaucoup moins symbolique, beaucoup moins avec des coutumes locales, etc., comme il y en avait davantage dans toutes ces églises que nous appelons aujourd'hui les petites églises orientales. Je vous raconte une petite anecdote à propos de nos réunions. Donc, vous avez sous les yeux, je vous ai distribué une feuille, les auditeurs bien sûr n'ont pas la feuille sous les yeux, mais vous avez là sous les yeux le calendrier des rencontres que nous avons eues à Rome. Il y en a eu donc en novembre 2016, en mars 2017, en septembre 2017 et en juin 2018. Le Saint-Père est venu nous rendre visite par deux fois, à l'improviste. À l'improviste, oui. Dans notre commission, nous étions occupés à travailler lors de la deuxième réunion. Et tout à coup, on frappe à la porte et voilà, c'est le Saint-Père qui arrive. Et alors, il dit, voilà, je viens voir comment vous travaillez et comment ça marche, etc. Bon, il est resté une vingtaine de minutes avec nous. Et j'ai retenu deux choses m'ont frappé dans ce qu'il a dit. Je pense qu'il était assez soucieux de nous voir faire un bon travail dans le sens, eh bien, d'élaborer un document qui lui permettrait de mettre en valeur davantage le travail des femmes dans l'Église. Je ne sais pas s'il avait directement en tête une ordination diaconale. Il nous avait demandé d'établir des faits historiques. Non pas de lui donner des considérations dogmatiques ni pastorales sur l'opportunité de ceci, de cela, uniquement établir des faits. Et le document qu'il nous demandait était destiné à lui-même. On devait le lui remettre en main propre et non pas le publier, comme beaucoup de documents de commission sont destinés à être publiés. Alors, voilà deux choses qu'il nous a dites. Oui, dit-il, moi je crois beaucoup que les femmes ont quelque chose de très propre à apporter à l'Église. Par exemple, quand j'étais archevêque de Buenos Aires, dit-il, eh bien, certains séminaristes avaient besoin d'une aide psychologique et certains allaient trouver une femme psychologue, d'autres allaient trouver un homme psychologue. Vous savez que pour les psychologues, on appelle ça un pré-transfert. Hein. Si vous choisissez d'aller chez un homme, ben, vous avez déjà choisi beaucoup de choses. Si vous choisissez d'aller chez une femme, vous avez déjà aussi transférer beaucoup de choses. Hein. Bon. Enfin, peu importe. Donc, certains séminaristes allaient chez une psychologue et il dit « J'ai souvent remarqué qu'ils progressaient mieux que les autres. et avaient dans ce contact quelque chose de spécifique. Ils progressaient souvent mieux ou plus vite ou plus profondément que ceux qui étaient suivis par un homme. Première chose que moi j'ai retenue. Deuxième chose, il dit que je me souviens de mes cours de patristique, etc., où un auteur raconte que, à propos des diaconesses, certaines épouses qui étaient maltraitées par leur mari, eh bien, allaient se plaindre à la diaconesse. Et c'est la diaconesse qui portait la plainte auprès de l'évêque. Donc, elle servait d'interface, de go-between, hein, de médiatrice entre les femmes, mais entre le peuple sans doute aussi, et les autorités, le clergé en particulier, évidemment l'évêque qui était un homme et qui était intéressé de savoir comment ça se passait à l'intérieur de son diocèse et s'il devait agir et tout, ça se passe encore aujourd'hui, eh bien la diaconesse faisait ce travail. Alors, ça a même été publié dans une interview ou bien dans un document d'Internet, je ne sais plus lequel. Je racontais cela à un théologien qui me disait « Mais non, c'est ridicule, le pape n'a quand même pas dit ça, ça ne tient pas la route. » Eh bien, je trouvais que, vraiment, au contraire, cela montrait une attention du Saint-Père à un rôle possible et sans doute effectif de certaines femmes dans l'Église, de servir de témoin et d'intermédiaire pour des situations compliquées, parce qu'on met souvent en avant que les diaconesses faisaient les onctions pour les baptêmes des adultes, etc. Mais il y avait bien plus que cela, je pense, dans le rapport entre les chrétiens, les chrétiennes et leur clergé grâce aux diaconesses. Lors de la seconde visite qu'il nous a faite, c'était à table. À table, vous savez que nous sommes reçus à la Casa de Santa Marta, là où le pape lui-même vit, et il y a une grande salle à manger, et le pape, on le voit là dans un coin du réfectoire, eh bien il a quelques hôtes, quelques invités, il discute avec eux, mais de temps en temps il va saluer des gens qu'il connaît, et parfois il apparaît à une table, donc tout à coup on ne savait pas d'où il sortait, mais il était au milieu de nous, et me disait « Alors comment ça avance ? » Eh bien, à ce moment-là, j'étais justement le secrétaire des petites réunions que nous faisions et je lui ai posé la question, « Saint-Père, moi j'ai un problème parce que nous sommes d'avis très différents et je ne sais pas ce qu'il faut mettre dans le rapport. » Alors il dit, « Il faut tout mettre. Non mi scandalizzo. Je ne me scandalise de rien, vous devez mettre les avis de tout le monde. Moi je veux savoir ce que tout le monde pense. » Voilà. Eh bien, malheureusement, c'est pas ce que nous avons fait. Malheureusement, nous avons fait un rapport sur lequel nous étions tous d'accord. Eh bien, nous étions tous d'accord sur des choses, évidemment, assez banales, assez communes, assez peu intéressantes. Et c'est ce rapport qui a été remis en juin 2018 au Saint-Père. Et je pense que là, eh bien, voilà, c'est un petit peu la raison, je crois, de la difficulté de cette commission et de l'échec ou du semi-échec, je crois que je peux le dire, de notre travail. Alors certains, on nous a invités, si certains d'entre vous, nous a-t-on dit, veulent remettre au pape un document personnel, ils peuvent le faire. Et donc le pape a commenté ensuite, mais bien plus tard, il a commenté ensuite qu'en fait, oui, le rapport n'était pas un rapport où tout le monde était d'accord, et que chacun y allait un peu de sa petite théorie. Que chaque théologien avait sa petite théorie. C'était aussi mon sentiment, que nous n'avions pas réussi à faire un travail commun, disons, assez profond. Nous avons aussi manqué de temps, parce que vous savez que deux ans, c'est très peu. Alors vous dites, non, deux ans, moi je fais un mémoire, je fais une thèse. Oui, mais vous travaillez seul, vous n'avez pas à parler anglais, vous n'avez pas à parler avec un Coréen ou avec une Australienne, etc. C'est ça la réalité des commissions. Alors il n'y avait pas de Coréen ni d'Australien dans notre commission, mais il y avait le problème des langues, puis il y a le problème de se comprendre au niveau théologique. Donc ça demande beaucoup de temps. J'avais été auparavant, pendant 5 ans, dans la commission théologique internationale. Dans notre sous-groupe, il y avait deux Français, un Belge, un Togolais, un Espagnol, un Italien, un Coréen, une Australienne, une Canadienne, et puis j'oublie quelqu'un, voilà. Alors, il faut d'abord arriver à s'entendre linguistiquement et puis théologiquement, et ça prend beaucoup de temps pour travailler. Avec Madame Phyllis Zagano, justement, l'Américaine, eh bien, j'ai beaucoup travaillé. Elle était à New York, et parfois sur une journée, pas tous les jours bien sûr, mais les journées où on devait vraiment faire avancer un document, il arrivait qu'on s'envoie 8 mails hein, par-delà l'océan pour une question qu'on essayait de trancher, sur une formule qu'on essayait de mettre au point. Donc, dans cette conférence que nous retransmettons pour les auditeurs de RCF, je suis presque à la fin du point que j'ai appelé récit. Et je voudrais encore dire une chose, c'est que Madame Phyllis Zagano, donc, qui a écrit beaucoup sur ce sujet, m'a invité à New York le 15 janvier 2019 à l'université Fordham University des Jésuites. Et là, nous avons eu une journée très très bien préparée, une grande conférence, le 15 janvier 2019, et il y a trois vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, et qui sont, je crois, sur votre feuille de route, tout à la fin, vous voyez. Il y a l'événement qui a été retransmis en entier en 1h30, en anglais. Ensuite, une interview de Madame Zagano et moi-même en anglais pendant 20 minutes. Et enfin, le père Rosica, un père canadien, m'a interrogé pendant 30 minutes en français. Et voilà, si vous voulez visiter ces vidéos, je crois qu'elles battent un record de consultation sur les vidéos de Fordham University. C'était un très grand événement, très bien préparé. Entre-temps, le 15 janvier 2019, eh bien, Madame Zagano et moi-même, nous nous sommes retrouvés au Portugal en avril 2019 à Lisbonne et à Porto pour faire le même genre de conférence. Ensuite, j'ai été au Luxembourg. À Bruxelles, j'ai parlé une fois au diacre du diocèse et trois fois au Forum Saint-Michel. Et vendredi passé, donc il n'y a pas bien longtemps, il y a eu un colloque à Leuven, donc l'université catholique néerlandophone et anglophone de Louvain, une journée entière consacrée au diaconat féminin avec des conférences en anglais, en néerlandais, en italien et la mienne en français. Voilà, et maintenant je suis ici parmi vous pour reprendre ce thème. Je passe maintenant au deuxième point. Les textes d'écriture sur lesquels on s'appuie pour discuter le diaconat et sont très peu nombreux. Sur le diaconat féminin, en tout cas, sont extrêmement peu nombreux. Pour le diaconat, en général, ils sont peu nombreux aussi. Alors, vous savez que quand on étudie une question comme celle-ci, que faut-il faire? Eh bien, il faut aller aux autorités les plus grandes, qui sont évidemment d'abord l'Écriture sainte. Hein. Et puis, les grands conciles écuméniques. Et puis, eh bien, les décrets du pape. Et puis, la liturgie, les rituels, la législation, le droit canonique à partir du moment, évidemment, où il est créé. Mais alors, il ne faut pas oublier qu'il faut aller aussi au témoignage personnel. On a beau dire, voilà comment on fait pour ordonner une diaconesse, est-ce qu'il y en a eu qui ont été ordonnés? Je ne suis pas que ce soit dans le rituel. Hein. Il faut aussi que des candidats existent et que réellement ce soit une réalité vécue. Si vous ouvrez un livre de droit, vous avez des tas de cas dont vous vous dites probablement que ça arrive très peu souvent. Et d'autres cas arrivent par milliers. Donc il ne suffit pas de trouver un rituel ou de trouver une loi qui parle des diaconesses pour se dire, vous voyez, hein, il y avait des diaconesses à tel moment. Il faut aussi se demander s'il y a des exemples concrets de personnes qui ont vécu ces choses-là. Alors, commençons donc par l'Écriture sainte. La lettre aux Romains se termine La lettre de saint Paul aux Romains se termine au chapitre 16 par des salutations. Toute une série de salutations, il faut saluer un tel, une telle, un tel, une telle. Et la première salutation va à Phébé, notre sœur, diacre, diakonos de l'église de Sancré. Donc ça c'est la première salutation de saint Paul aux Romains. Et on utilise à côté du mot, du prénom Phébé, qui est un prénom féminin, sans aucune hésitation, appuyé par notre sœur, eh bien du mot diakonos au masculin. Au masculin. Donc c'est une femme diacre. On ne parle pas de diaconesse, on parle de femme diacre. Voilà, ça c'est un témoignage très important, et d'autant plus important qu'il est un peu ironique aussi, parce que dans le Nouveau Testament, on parle très rarement de diacre, en général. On parle la plupart du temps de diacre masculin, bien sûr, mais on ne leur donne pas un nom. On ne les cite pas, on ne dit pas Joseph qui est diacre, ou etc. Hein? Et la seule fois où on met ensemble un prénom et diacre, eh bien, c'est un prénom féminin. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas sept diacres qui ont été institués dans les Actes des Apôtres, Actes 6? Eh bien, ça, c'est le petit piège exégétique classique, hein, sur cette question. C'est qu'en effet, Actes 6, versets 1 à 6, les apôtres, les douze, instituent sept hommes pour le service, diaconia, de la parole, parce qu'il ne faut pas qu'il se consacre entièrement au service des tables. Alors, on explique donc le service, le mot diaconia vient deux fois, et je crois le verbe vient une troisième fois, servir, mais le mot diakonos n'arrive pas du tout. Le mot diakonos n'arrive pas. On ne dit pas que ce sont des diacres. On dit que ce sont des gens qui vont faire la diaconie. Alors, bien sûr, la tradition a considéré que c'était là l'institution des premiers diacres, des sept premiers diacres. On n'a pas tort, dans les rituels on rappelle cet épisode, on n'a pas tort bien sûr. Mais vous voyez que, ironie du sort, hein, lorsqu'on institue les sept diacres, le mot diacre n'arrive pas, et lorsque le mot diacre arrive avec un prénom, c'est un prénom féminin. Bon, voilà, ça c'est l'ironie de l'écriture, hein, ça nous permet de faire de l'herméneutique, hein, de se demander comment interpréter tout cela. Alors je signale à cette occasion que les douze apôtres ont été institués, entre guillemets, ils ont été choisis, ils ont été nommés par le Christ, d'accord. Alors on dit, ben, puisque ce sont les évêques ou les prêtres, enfin bon, à interpréter, donc ça c'est une volonté du Christ, c'est clair. Mais le diaconat, le Christ ne dit rien sur le diaconat. Dans l'évangile on parle de servir, bien sûr, d'être servi ou de servir, mais les diacres sont d'institutions apostoliques. Ce sont les apôtres qui ont choisi. Donc c'est la primitive Église. Ce n'est pas, ça ne remonte pas directement à Jésus-Christ. Et je crois que là c'est important, hein, parce qu'on dit par exemple, oui, mais les femmes ne peuvent pas être ordonnées parce que Jésus-Christ n'a pas choisi douze apôtres femmes, mais hommes. Ben oui, ça vaut. Hein, si on veut argumenter, ça vaut pour les prêtres, éventuellement pour les évêques, pour les prêtres. Mais pour le diaconat, c'est autre chose, puisque c'est d'institution apostolique. Ce sont les apôtres qui ont choisi ces sept hommes, dont on ne dit pas qu'ils sont diacres, et puis peut-être aussi des femmes qui servaient. Le mot diacre aussi peut être traduit par ambassadeur, intermédiaire. Voilà, alors je vous ai indiqué sur votre feuille aussi 1 Timothée 3, 8 à 13. Alors, je n'ai pas mis le texte parce qu'il est un peu long, mais dans ces versets, on décline toutes les qualités que doivent avoir un diacre. Alors, les diacres doivent ceci, cela, je ne vais pas me risquer de mémoire à dire ce qu'on en dit, mais tout à coup, il y a un verset qui dit « Et les femmes également doivent être ceci et cela et ceci, cela ». Alors, pourquoi ce verset au milieu d'une série de conditions, je dirais, hein, de caractéristiques du futur diacre? On parle des femmes. Alors voilà, herméneutiquement, il faut se demander qui sont ces femmes. Alors il y a diverses interprétations. Hein. Ce sont les femmes diacres, disent les uns. D'autres disent non, ce sont les femmes de diacres. Hein. D'autres disent non, ce sont les femmes en général, parce qu'évidemment, des qualités qui valent pour des diacres valent pour tout le monde aussi, bien sûr. Hein. Mais ici, ce sont des conditions sine qua non. Voilà, donc là, il y a aussi un petit problème exégétique. Alors, il y a Galates 3, 28. C'est un verset que vous connaissez peut-être. En tout cas, je vais le lire et en donner une petite interprétation. Combien de temps est-ce qu'il me reste, Étienne? Dis-moi un petit peu. 35 minutes. Voilà. Oui. Vous vous souvenez, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Ça, c'est un verset qu'on utilise souvent pour souligner l'égalité de l'homme et de la femme, l'égalité en dignité, etc. Alors, je signale que, en parenthèse, j'ai mis « il n'y a plus l'homme et la femme ». En fait, le grec dit « il n'y a plus le mâle et la femelle ». C'est un peu plus cru hein, que de dire « il n'y a plus l'homme et la femme ». Et ça fait peut-être référence à « Dieu le créa hein, »,« homme et femme, il le créa », c'est « homme et mâle et femelle, il le créa hein, ». Il les créa. Donc voilà, là il y a aussi une petite énigme, mais il faut comme toujours lire ce texte dans son contexte. Alors le contexte, c'est un contexte où on parle du baptême. Le baptême. Eh bien, désormais, tous sont baptisés de la même manière, les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Autrefois, dans la religion juive, eh bien, les garçons recevaient la circoncision, les filles n'avaient pas de signe distinctif qui les fasse, de rite distinctif qui les fasse entrer dans la religion, dans... Voilà. Et je crois que cette égalité est aussi une égalité de rite par rapport au baptême, hein, qui vaut à la fois pour l'homme et pour la femme. Vous n'êtes qu'un dans le Christ grâce au baptême et grâce à cette égale dignité que le baptême vous reconnaît à l'un comme à l'autre. Vous savez que les raisonnements de saint Paul sont toujours un peu difficiles, hein, mais si on ne les place pas dans leur contexte, alors on se risque vraiment à beaucoup d'erreurs. Bien, je vais passer au texte témoin du premier millénaire, mais en allant très vite, parce que ce sera peut-être l'objet de notre travail demain. Voilà, il y a beaucoup de textes, j'en ai là toute une liste, hein, comme vous voyez, beaucoup de textes orientaux et occidentaux qui parlent des diacres. Femme. Le mot diaconesse arrive pour la première fois au concile de 325. Première apparition du mot diaconissa. Autrefois, on utilisait le mot diacre masculin. Mais en syriaque, il y avait déjà un mot spécial pour désigner le diacre et la diaconesse. Voilà, en Orient, donc vous avez la didascalie des apôtres, la constitution apostolique, testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas passer tout cela en revue. Ce sera un peu fastidieux si on n'en dit pas grand-chose. Je vous signale, pour ceux qui douteraient qu'il y avait des diaconesses, la Nouvelle 3 du 16 mars 535, que vous avez là dans la législation impériale, sur le clergé de Sainte-Sophie à Constantinople. Sainte-Sophie, vous voyez, c'est immense, hein, Église de Constantinople, eh bien là, l'empereur lui-même dit que le clergé de Sainte-Sophie ne peut pas dépasser 240 clercs. Pas plus de 240 clercs, si vous voulez bien, et pas plus de 40 diaconesses. Donc voilà, il y a une règle de l'empereur, parce qu'évidemment, il y avait à cette époque-là une grande proximité hein, entre l'autorité de l'empereur et l'autorité du patriarche. Voilà, on déclare qu'on ne peut pas avoir plus de 40 diaconesses à Sainte-Sophie. Et Phocius, qui a été archevêque de patriarche de Constantinople, dit qu'à son époque, au IXe siècle, c'était bien comme cela que fonctionnait le clergé de Sainte-Sophie. Alors je passe pour en arriver un petit peu à des questions plus contemporaines. Mais avant cela, je vous signale encore, donc les rituels et les décrets pontificaux, dont je fais une petite liste ici. Voilà le sacramentaire grégorien de Trente, le sacramentaire grégorien Adrien, le pontifical d'Egbert de York. Tous ces grands pontificaux qui ont traversé les siècles, eh bien, comportaient une prière ou même une messe hein, pour faire une diaconesse, ad diaconam faciendam. Parfois on dit pour ordonner une diaconesse. Parfois on dit pour consacrer une diaconesse, donc il y a différents termes. Et il y a des décrets du pape encore au XIe siècle, Benoît VIII par exemple, Jean XIX, etc., qui confèrent à un évêque le droit d'ordonner des diaconesses. On est au XIe siècle en Occident. Et l'évêque de Lucca, Otto, en 1139-1146, avait des diaconesses dans son diocèse. Voilà. Alors, je parle un petit peu maintenant des enjeux pour aujourd'hui. Combien de temps est-ce qu'il me reste, Étienne ? 15 minutes. 15 petites minutes, voilà. Eh bien, chers auditeurs, puisque nous sommes enregistrés par RCF, maintenant je passe à un autre point. Une petite réflexion contemporaine sur l'opportunité éventuelle de réfléchir à l'ordination diaconale de femmes. Alors, dans le dernier document Querida Amazonia, le pape François indique que les femmes font beaucoup de choses en Amazonie. Elles baptisent, elles catéchisent, elles prient, elles sont missionnaires. Alors vous allez peut-être vous étonner du fait qu'elles baptisent. Ici, les femmes ne baptisent pas. Mais justement, il y a des zones en Amazonie où on ne voit pas un prêtre pendant 10 ans. Et donc, il y a des femmes qui ont reçu une autorisation spéciale, une permission, je ne sais pas quel est le terme technique, une députation, voilà, pour conférer ce sacrement. Sinon, il n'y aurait pas moyen de baptiser les enfants. Ce sont des tâches qui sont remplies couramment par les femmes, donc de baptiser, de catéchiser. Elles sont missionnaires. Il y a bien d'autres tâches qu'elles font un peu partout dans le monde. Elles sont présentes dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles. Elles animent des communautés. Alors au niveau de l'enseignement, en tout cas dans nos pays ici, elles enseignent souvent la théologie. Alors on les retrouve parfois dans l'enseignement des langues, l'enseignement de l'histoire, mais pas seulement, ce sont un peu des sciences auxiliaires, dirais-je. Hein. Il y a aussi des enseignantes en dogmatique, des enseignantes en morale, et je crois que là c'est très important, hein, d'avoir des personnes qui, en morale, en pastorale, mais dans tous les domaines, hein, soient à la fois des hommes et des femmes pour enseigner ces matières qui sont tellement importantes pour l'Église. En Belgique, par exemple, eh bien, j'ai eu ce renseignement de Mgr Hutzin il y a un mois peut-être, plus de 50%, et je n'ose pas me rappeler exactement au-delà de combien de pourcents au-delà de 50, il m'a dit, plus de 50% des gens qui sont nommés à l'intérieur de l'Église, qui ont une mission et dont beaucoup sont salariés, rémunérés, plus de 50% sont des femmes. Alors bien sûr, il y a les prêtres, les diacres, etc., mais il y a donc plus de 50%, plus de la moitié, hein, du personnel effectif, actif en Belgique, eh bien ce sont des femmes nommées avec une lettre de mission et une rémunération pour la plupart du temps. Madame Phyllis Zagano me disait un chiffre beaucoup plus élevé pour les États-Unis. Bon, comme je n'ai pas de vérification sous la main, je n'ose pas m'avancer, mais je crois en effet qu'il est beaucoup plus élevé aux États-Unis. Des femmes dirigent des communautés, ça veut dire quoi? Eh bien, je vous raconte une petite anecdote. Un de mes confrères, en effet, travaille dans une paroisse et son chef, c'est une femme. Elle est le doyen. Le doyen, bien sûr. Donc, elle est l'administratrice, si on veut, d'un ensemble de plusieurs paroisses. Et est-il content? Oui, il est content. Oui, d'accord, il est content. Mais c'est quand même un peu embêtant parce qu'elle veut tout le temps se réunir pour qu'on se mette d'accord. Bon. Ce serait quand même plus facile que, bon, on décide, et puis bon, s'il y a un clash ou l'autre, c'est pas grave, on avance. Hein, mais non, elle veut tout le temps nous réunir pour qu'on se mette d'accord. Je trouvais ça intéressant comme remarque, parce que je me suis laissé dire, dans les milieux psychologiques on dit cela, que les femmes ont beaucoup plus le sens de l'intelligence collective. collective. Ça veut dire l'intelligence relationnelle, l'intelligence du consensus, l'intelligence de travailler ensemble. Et je pense que c'est vrai. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec Madame Dominique Streuve, qui est psychiatre. Et donc, au niveau psychologique, nous avons écrit un livre qui s'appelle « Psychologie et spiritualité, enjeux pastoraux ». Donc, je travaille avec elle depuis au moins 15 ans, je crois, ou un peu plus. Eh bien, il y a un travail d'intelligence collective, d'arriver ensemble à comprendre et à décider. Je pense que on peut parler, bien sûr, du génie féminin, mais moi, je pense que l'idée, ce n'est pas il y a les hommes qui font comme ça et qui, c'est très bien, et puis alors il y a les femmes qui font comme ça et c'est très bien, et il faut leur donner la chance de travailler avec leur génie féminin. Je ne nie pas du tout cela, mais moi, je crois que le grand enjeu pour l'Église aujourd'hui, c'est comment travailler ensemble. Quel est le rôle de la synergie homme-femme dans l'Église? Bien sûr, chacun a ses qualités, je ne nie absolument pas cela, mais je remarque, pour le dire un peu de manière simpliste, quand ce ne sont que des hommes qui travaillent ensemble, ils travaillent d'une certaine manière. Quand ce sont que des femmes qui travaillent ensemble, elles travaillent à leur manière. Eh bien, quand il y a des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, c'est encore une troisième chose. Ce n'est pas un mixte des deux. Je crois que c'est ce troisième style qui est le meilleur. Au-delà des clichés, je crois en effet qu'il y a quelque chose où la présence de la femme empêche les hommes de faire certaines choses, de dire certaines choses, mais aussi les stimule à travailler autrement. Et inversement, je pense. Lorsqu'il y a des hommes dans un groupe de femmes, les femmes aussi se présentent autrement. Au-delà des clichés, il y en a beaucoup, bien sûr, ils ne sont pas tous faux, mais ils ne sont pas tous très intelligents, non. Chacun, je crois, lorsqu'on travaille ensemble, hommes et femmes, eh bien, a plus l'occasion de manifester ce qu'il est comme homme ou comme femme, et de mettre en valeur aussi le rôle de l'autre. Lorsque je travaille plus comme homme avec une femme ou un groupe de femmes, non seulement je me sens plus homme, mais je crois que je permets à la femme aussi d'être davantage ce qu'elle est, et réciproquement. Hein. Je pense que là, il y a une espèce de dialectique réciproque que moi je trouve très bénéfique, et c'est cela que je crois qu'il faut que nous arrivions à trouver dans l'Église, aujourd'hui au niveau de la société, de la politique, des entreprises, etc. Nous savons bien qu'il y a une grande mixité. Peut-être que dans l'Église, nous avons aussi à trouver notre style de mixité, et peut-être qu'il y a aussi là vraiment quelque chose à découvrir. En tout cas, je crois que dans les prises de décision, il y a beaucoup de choses qui se font plus profondément lorsque on travaille ensemble. Et je pense par exemple à toute la crise que traverse notre Église pour l'instant avec la question des abus. Je suis convaincu pour ma part que si les femmes avaient eu plus de place à beaucoup de niveaux du fonctionnement de l'Église, il y a beaucoup de ces choses qui auraient été empêchées, voire, disons, de manière préventive. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas osé faire, qu'on n'aurait pas osé imaginer, rien que par la présence, pas parce qu'elle se serait mise en policière par rapport à telle ou telle chose, mais la présence de quelqu'un peut beaucoup influencer finalement le climat de travail et le climat des agissements des uns et des autres. Voilà, maintenant, Étienne, je te passe la parole. Nous pouvons terminer.
Merci beaucoup, Père Bernard Potier, de nous avoir ainsi partagé cette expérience de travail et votre réflexion sur cette question d'un diaconat au féminin dans l'Église catholique. Je rappelle que vous êtes jésuite, responsable du Forum Saint-Michel à Bruxelles, et que vous avez participé à cette commission qui a été mise en place par le pape François pour donner un avis sur l'éventualité de la restauration d'un diaconat féminin dans l'Église catholique. Voilà, je crois que ce que vous nous avez partagé a éclairé les différents éléments du débat, et vous nous avez partagé aussi ce que vous sentiez comme enjeu important pour l'Église. Voilà, un très grand merci pour cette intervention. Bonsoir aux auditeurs de RCF et bonsoir à tous. Voilà, donc ça c'était la fausse conclusion. Maintenant on peut reprendre le fil de nos échanges. Donc Bernard, est-ce que tu avais bien terminé? Oui. Voilà, et ben du coup je vais passer la parole à Joël pour avoir aussi une voix féminine sur cette question. Hein. Donc peut-être pour présenter Joël. Joël Ferry et Xavier, elle était supérieure générale de sa congrégation, hein, et elle est aussi bibliste. Elle a enseigné d'abord bibliste.
Ça a pris plus d'années de ma vie.
Voilà. Et donc Joël a enseigné la Bible à l'Institut catholique de Paris, et tu es spécialiste des prophètes, notamment le prophète Isaïe. Hein.
Et Jérémie aussi. Je fais ma thèse sur Jérémie et puis j'ai publié sur Isaïe après. Voilà.
Et ben, merci aussi beaucoup, Joël, de réagir à ce qu'a dit Bernard. Et puis toi aussi, peut-être, de dire qu'est-ce que tu vois comme enjeu autour de cette question de l'ordination de femmes diacres.
Peut-être je vais commencer par là.
Ouais.
Alors, mais en préambule, je me demande un peu pourquoi je suis ici. Peut-être que certaines se le demandent, puisque... Voilà, un professeur d'Ancien Testament, qui plus est, a-t-il quelque chose à dire sur le diaconat féminin? Bon, alors là, je vais me permettre une petite confidence. En fait, c'est une raison personnelle qui me conduit à ça. J'évoque un souvenir. Dans les années 70-75, donc ça remonte quand même... voilà, je commençais mes études de théologie à la Cato. C'était le cardinal Marty, qui était archevêque de Paris, Jean-Noël Besançon, responsable du service des vocations, et il avait constitué un petit groupe de jeunes femmes, dont j'étais, pour réfléchir sur le ministère féminin. Et alors, en même temps, donc, je poursuis mes études à la Cato, et je lis dans Lumen Gentium, au numéro 29, avec la restauration du diaconat permanent, faut que le diaconat, c'est pour cette... oui, restauration, recréation, je ne sais pas, service de la parole, service de la liturgie et service de la charité. Alors moi, qui m'orientais vers les études bibliques, je me suis dit, mais le service de la parole, c'est pour moi. Je veux dire, ça m'intéresse. Et voilà, je me suis intéressée, depuis cette époque-là, par intermittence, hein, j'avais d'autres champs d'intérêt, à ce sujet, et bon, l'histoire en a décidé autrement, je ne suis pas diacre, je suis Xavier. Une vocation, ça se vit dans l'histoire, c'est pas indépendamment de ce qui nous arrive. Alors ensuite, quand Étienne m'a proposé de participer à cette soirée, j'ai objecté que je serais sans doute trop d'accord avec Bernard Potier. J'avais lu l'un ou l'autre article, La grâce du diaconat. Je me suis dit, mais je suis d'accord, on va... pas trop débattre, quoi. Mais il y a comme une grande différence, c'est que je suis une femme. Et donc, nous avons une différence d'identité qui va sans doute se percevoir dans mes propos. J'ajouterai enfin, même si c'est évident, je préfère le dire quand même, je suis française. Et donc, il est clair que la dimension culturelle, elle fait partie de ma présentation. Les choses seraient dites autrement sur les ministères dans d'autres continents. Donc voilà, je n'ai pas la prétention du tout d'une parole universelle. Elle est issue, voilà, je suis française et c'est de là que je parle. Pour préparer cette petite intervention, j'ai relu le document de la Commission de théologie internationale que Bernard a évoqué tout à l'heure, adopté au terme de 8 ans de travail. J'ai lu ça quelque part, je sais, un document très consistant. Il y a à la fois la dimension scripturaire, la dimension historique, théologique. Et je passe à la conclusion, finalement, parce que, je résume, hein. L'écriture parle des femmes diacres, ça nous a bien été dit, donc il n'y a pas de contre-indication scripturaire au diaconat féminin, c'est dans l'écriture. Pour l'histoire et la tradition, même si c'est plus complexe, parce qu'il y a beaucoup de documents, ils sont issus d'églises un peu géographiquement différentes, qu'on a des rituels, mais on n'a pas de traité de théologie qui débat du diaconat. Mais en tout état de cause, l'existence des femmes diacres est indiscutable. J'ai relu qu'on mentionnait, par exemple, au concile de Chalcédoine, une femme ne doit pas être ordonnée diaconesse avant l'âge de 40 ans. Bon, ça veut bien dire qu'il y en avait. Voilà, on a des petits renseignements comme ça, à droite, à gauche. Alors c'est vrai qu'il y a une grande discussion, j'ai vu ça, à propos de l'imposition des mains. Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une ordination? Il y a quand même plus de chercheurs qui sont du côté de l'ordination, hein, j'ai trouvé. Martimor et consorts, oui, mais Grison a plus de disciples. Hein. Je parle sous le contrôle d'un Belge. Mais même si ce point restait débattu, sommes-nous aujourd'hui tenus par le profil des femmes diacres d'autrefois, si tant est qu'on puisse le déterminer? L'Église n'a-t-elle pas, puisque ce n'est pas ça ne remonte pas au Christ, comme il vient d'être dit, est-ce que l'Église n'a pas le pouvoir de créer, d'instituer ce qui lui semble nécessaire pour la vie des communautés? Donc l'argument historique, je le trouve, il n'est pas dirimant. Donc, la question d'une éventuelle ordination des femmes diacres revient au magistère. Il reviendra au ministère de discernement que le Seigneur a établi dans son Église de se prononcer avec autorité sur la question. Donc le document termine sans conclure. C'est ouvert. Il ajoute ceci. Depuis le Concile Vatican II, la présence active de ce ministère dans la vie de l'Église suscite, en mémoire de l'exemple du Christ, une conscience plus vive de la valeur du service pour la vie chrétienne. C'est-à-dire que le document dit finalement, les diacres, ça a été une bonne chose. Ça permet à la communauté chrétienne d'avoir une conscience plus vive du service. Le document l'écrit pour le diaconat masculin, permanent. Je me suis dit, mais ça pourrait très bien aller pour les femmes, peut-être. La question c'est donc, convient-il aujourd'hui pour la mission de l'Église, d'ouvrir cette possibilité. Et de fait, le pape François, dans cette exhortation apostolique que vous avez peut-être lue, évoque la question, même si elle n'est pas l'essentiel du document. Il faut bien mesurer que l'essentiel de l'exhortation, chère Amazonie, c'est un projet de renouvellement pastoral pour l'Amazonie, un plaidoyer pour une écologie intégrale, pour une église au visage amazonien. C'est les trois premières parties, vous savez, un rêve social, un rêve culturel, un rêve écologique. Et il y a un quatrième rêve, c'est le rêve ecclésial, qui est la partie la plus longue. Alors, il n'y a pas de prise de position directe, nette, du pape sur le sujet du diaconat féminin, pas plus que pour l'ordination d'hommes mariés, de viri probati, comme on dit. C'est plutôt l'ouverture d'une troisième voie, sans préjuger de l'avenir. Alors que le document final du synode, c'est-à-dire le document qui a été voté à Rome par l'ensemble des pères synodaux, était quant à lui ouvert à ces nouveautés. De nombreux évêques, membres du synode, avaient demandé qu'en fonction de la situation de leurs églises en Amazonie, il soit possible d'envisager l'ordination d'hommes mariés et de femmes diacres. Dans cet écart entre la position, ce que dit le pape dans l'exhortation apostolique et le document final, on peut peut-être voir l'indication que les discernements sont à poursuivre, qu'il s'agit en fait dans ce texte d'un point d'étape sur un chemin qui doit continuer. Le pape invite à la créativité, à des formes nouvelles de service dans l'Église. Par exemple, le numéro 102, la situation actuelle nous demande d'encourager l'émergence d'autres services et d'autres charismes féminins qui répondent aux nécessités spécifiques des peuples amazoniens en ce moment historique. Voilà, le pape ne ferme aucune porte, il parle de services et non pas de ministères, et il situe cette phrase dans un contexte, c'est du parti de 99 à 104 je crois, que dit-il sur les femmes après ce synode? D'abord, il formule une reconnaissance appuyée de leur rôle dans la vie ecclésiale. Sans elles, bien des communautés en Amazonie et peut-être ailleurs auraient disparu. Et puis il poursuit en disant « Les femmes, numéro 101, les femmes apportent leur contribution à l'Église d'une manière spécifique et en prolongeant la force et la tendresse de Marie. Juste après avoir affirmé, le Seigneur a voulu manifester son espoir et son amour, son pouvoir, pardon, et son amour à travers deux visages humains, celui de son fils et celui de Marie. » Donc, je vous cache pas que j'ai ressenti comme un malaise cette lecture, pour deux raisons. D'abord, on dit deux visages, je crois, deux visages humains, le Christ et Marie. Puis on dit les femmes, ben c'est pour Marie, au fond. Je trouve qu'il y a un raccourci là qui est un peu dommageable. Alors, c'est une formulation théologique qui n'a pas été assez travaillée par ceux qui ont écrit avec le pape ces documents. Bon. Et puis derrière ça, je pense que le spécifique féminin, c'est une catégorie un peu dangereuse. On la connaît, vous savez, le génie féminin qui met les femmes dans un splendide isolement. On les reconnaît, c'est formidable, hein, mais un peu loin, quoi. Alors, il y a toute une série d'exemples, hein, dans l'histoire sur les femmes qui vont dans ce sens-là. Et ça n'a pas donné grand-chose, en fait. Parce que ça n'impacte pas dans la vie de l'Église. D'ailleurs, Anne-Marie Pelletier, dont vous avez peut-être lu le livre récent sur l'Église des hommes et des femmes, quelque chose comme ça, il y a un piège dans les discours louangeurs, alors qu'il s'agit pour les femmes d'exister en « je » et avec une voix propre. Donc voilà, je pense que pour cette quatrième partie, on est en chemin, j'ai l'impression. Mais ça fait très longtemps qu'on est en chemin. Ça va être mon deuxième temps, là, après aujourd'hui. Parce que, pour en revenir au texte de la commission théologique, nous a bien rappelé que, bon, il n'y a pas de conclusion. Les documents de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Inter Insigniores, il y a eu un commentaire après, parce que sans doute le cardinal Ratzinger a pensé que ce n'était pas très bien reçu et compris. Il dit, voilà, il est précisé, après avoir rappelé la non-admission des femmes au ministère presbytéral, le souvenir de l'existence de diaconesses. Mais était-ce une véritable ordination sacramentelle? C'est en tout cas une question qui doit être reprise de façon complète, et donc la congrégation a estimé qu'il fallait la réserver encore et ne pas l'aborder dans le présent document. Et on va voir ce genre de formule plusieurs fois. Oui, c'est sûrement un problème intéressant, ouvert, mais c'est pas le moment, quoi. En gros, je résume, même si ce n'est pas dans ces termes-là. Il y a quand même une ouverture qui, théologiquement, est très intéressante. Elle émerge du pape Benoît XVI, qui, dans un motu proprio, c'est-à-dire un petit texte, qui apparemment n'a pas grand-chose à voir, puisque c'est une modification d'article du droit canonique. Mais il dit ceci à propos du ministère ordonné, donc des hommes. Ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d'agir en la personne du Christ chef. In persona Christi capitis, comme disent les théologiens. Les diacres, en revanche, deviennent habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité. Ne peut-on pas voir dans cette différence, c'est-à-dire dans le pape quitte un peu la trilogie évêque, prêtre, diacre pour dire, oh, il y en a deux, ils sont configurés au Christ pasteur, c'est d'ordination pour le ministère, et les diacres, c'est différent, ils sont configurés au Christ serviteur, et c'est une ordination pour le service. Benoît XVI ne va pas plus loin, c'est un petit texte en passant, mais je trouve que il donne peut-être une ouverture pour réfléchir l'ordination de femmes au diaconat indépendamment de la question du presbytérat. Je dirais aussi que c'est une importante question œcuménique, puisque de très nombreuses églises admettent les femmes à la charge pastorale, y compris l'église anglicane, qui est sans doute la plus proche théologiquement de l'église catholique. Parce que l'église d'Angleterre accepte les femmes au presbytérat depuis 1992. Et la pensée de l'église anglicane sur l'ordination des femmes est intéressante. C'est pas l'argument iconique, comme on dit, le Christ est un homme, donc il faut que les prêtres soient des hommes. Non, pas du tout. C'est même, il est nécessaire, je cite, de représenter le Christ par des hommes et des femmes, afin de signifier dans l'Église que le Verbe a assumé toute l'humanité. Et je pense que c'est intéressant parce que plusieurs disons, expressions importantes de la foi catholique ne sont pas aussi masculines qu'on les a masculinisées par la suite, si je peux me permettre l'expression. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair, sarx. Le Verbe s'est fait, il ne s'est pas fait homme. On dit, il s'est fait chair. Il a pris la condition humaine. Dans le credo, que nous chantons parfois en latin, même si on ne le dit plus beaucoup en latin, homo factus est. Homo, c'est l'homme dans sa condition humaine. Ce n'est pas ouir, le sexe masculin. Donc, les formulations sont, oui, le Christ a été un homme, bien sûr, mais un homme, il nous sauve parce qu'il appartient à la condition humaine. Parce que l'accent n'est pas sur le sexe masculin. Il s'agit donc d'accéder à une vision plénière, dit Anne-Marie Pelletier dans un autre endroit, donc à double foyer des choses de l'humanité et des choses de Dieu. Alors, ordonner des femmes diacres, est-ce que c'est une opportunité? J'ai retrouvé dans mon dossier, donc parce que j'ai un dossier sur ce sujet depuis longtemps, une chronique dans la Croix de 2001 de Jean-Noël Besançon, donc un théologien qui était directeur de l'ISPC, donc c'est un théologien avec une fibre pastorale. Il écrit ceci, « Ce serait prendre acte de la place que tiennent bien des femmes dans les communautés que de les ordonner diacres. Puisque Vatican II a ouvert l'ordination de diacres permanents hommes, ce signe du Christ serviteur ne serait-il pas enrichi s'il pouvait être ouvert aussi aux femmes ? » Alors, avant d'aller plus loin dans cette réflexion sur quels sont les enjeux pour l'Église, qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce qui est favorable finalement aujourd'hui à cette ordination éventuelle, je vais présenter quelques objections majeures qu'on entend de ci, de là. D'une part, certains disent les femmes font beaucoup de choses dans l'Église. Ça, c'est pas contesté, c'est évident. Du coup, les ordonnés diacres ne changeraient rien. C'est pas utile, puisqu'elles font déjà, elles accomplissent tous ces services, toutes ces missions. Et puis, on énumère même la catéchèse, l'assistante paroissiale, parfois même quasi-vicaire ou curé, au sens, moi j'ai bien vu une autre femme, une religieuse, en charge d'une paroisse. C'est-à-dire, curé, c'est celui qui prend soin, ou celle qui prend soin de la paroisse. Alors, non prêtre, mais curé quand même, ou vicaire quand même. Et il y a une question qui me semble particulièrement pressante, c'est celle du sacrement des malades. La situation actuelle n'est franchement pas satisfaisante. Les malades actuellement, alors je parle en France, hein, sont visités très majoritairement par des responsables d'aumônerie ou des membres d'équipe d'aumônerie femmes, qui les écoutent, qui dialoguent avec eux, avec elles. Ces malades, relativement, enfin j'ai de nombreux exemples qui m'ont été racontés, confessent leur vie. Et alors, qu'en est-il du sacrement des malades à ce moment-là? Parfois, c'est tous tranchés, il n'y a pas de prêtre. Ou alors, il y a un prêtre âgé dans l'EHPAD d'à côté, peut-être qu'il accepterait de venir, pour entendre quoi? Certains disent, mais moi j'ai déjà tout dit, j'ai pas envie de recommencer. Donc, je veux dire, là, on est dans une impasse. Alors, j'entendais qu'en Amazonie, les femmes baptisent. Est-ce que le côté pressant de la situation, enfin, est-ce qu'on prive les gens de la grâce sacramentelle parce qu'on ne veut pas ordonner des femmes diacres qui pourraient éventuellement accomplir ce genre de ministère? Pas seulement baptiser ou être témoin du sacrement du mariage ou présider des obsèques. Donc, voilà, ça changerait rien, c'est pas... mais quand même, ça pourrait être étendu. Deuxième argument que j'entends, je sais pas, même le diaconat féminin, ça serait dangereux. Pourquoi? Parce qu'à une époque où tout le monde, ou presque, souligne qu'il convient de décléricaliser l'Église, il serait quand même bien paradoxal de commencer par cléricaliser des laïcs, en l'occurrence des femmes. Oui, l'argument. Si on ordonne des femmes diacres, eh bien, il y aura encore plus de clercs. Or, on veut décléricaliser. Je pense qu'on peut prendre l'argument de deux points de vue. De fait, le diaconat intègre dans le clergé, et plus il y a de diacres, hommes et femmes, plus le nombre de clercs augmente, ou au moins diminue moins vite. Il faut quand même être réaliste. Mais on peut aussi penser que le modèle actuel du prêtre, sur lequel nous fonctionnons depuis le Concile de Trente, c'est-à-dire uniquement des hommes célibataires, si ce modèle se diversifiait, que ce soit par l'ordination d'hommes mariés, enfin ça existe quand même un petit peu dans quelques petits coins de l'Église, hein. Donc ce n'est pas une question dogmatique, c'est une question pratique, enfin, pastorale. Donc si ce ministère, ce modèle de prêtre unique se diversifiait par des hommes mariés ou des femmes diacres, ne peut-on pas penser que la manière de vivre le ministère presbytéral, diaconal, serait modifiée? Modifié de l'intérieur. Le développement de la vie synodale, d'ailleurs dont on nous parle beaucoup, pourrait aller en ce sens. N'est-ce pas le fait de rester au statu quo qui renforce le cléricalisme? Le statut actuel ne favorise-t-il pas l'entre-soi? Un groupe d'hommes, plutôt en diminution en Occident, de moins en moins jeunes, avec un fonctionnement qui fait moins pas trop de place à l'altérité institutionnelle, s'entend? Voilà. Est-ce qu'ouvrir ne changerait pas la manière de vivre l'ensemble des ministères? Donc cet argument, vous avez bien compris, je ne lui accorde pas une place plus importante que ça. Et puis il y a encore un autre argument, c'est pas un argument, c'est il est meilleur d'attendre, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas prêt, il faut encore étudier, que ce soit... Bon, il n'y a que l'écriture qui échappe un peu à la révision souhaitée, parce que là, c'est quand même... Il n'y a pas trop de textes et ils sont assez clairs. Alors, je pourrais faire une petite objection un peu ironique, vous permettrez ça. C'est que pour le diaconat permanent masculin, on n'a pas tellement attendu, entre la décision du Concile d'ouvrir cette possibilité et sa mise en œuvre. En tout cas dans certains pays. Et on peut constater d'ailleurs que la mise en œuvre a été pas tellement celle attendue. C'était beaucoup réfléchi en fonction des jeunes églises d'Afrique et d'Asie, et c'est surtout en Amérique et en Occident, enfin en Europe, qu'il y a eu des ordinations. Et pour le diaconat féminin, ben on attend depuis des dizaines d'années que le discernement concret avance. Deuxième élément, que vous avez évoqué, hein, c'est-à-dire, je crois que c'était en 1976, peut-être encore une fois, hein, que le synode des évêques allemands a demandé la possibilité d'envisager l'ordination diaconale des femmes. Et qu'il a été répondu, il n'est pas question d'ordonner des femmes prêtres. Bon, toujours une non-réponse. Mais ce n'est pas un refus. On répond en bordure, quoi. On ne veut pas répondre à la question. Et cette demande est réitérée par l'épiscopat allemand, l'épiscopat américain. Elle est tout à fait à l'ordre du jour de la démarche synodale qu'entreprend l'Église d'Allemagne. C'est texto dans leur première assemblée. Et puis, troisième élément qui me fait dire que attendre, c'est pas forcément la seule voie possible aujourd'hui, c'est que c'est aussi l'expérience qui fait avancer la pensée théologique. On l'a bien vu pour le diaconat permanent masculin. Entre la décision et puis les formes particulières aujourd'hui du diaconat, il y a de grandes différences. En France, l'accent est beaucoup mis, j'allais dire, globalement sur le service de la charité. Les diacres sont au Secours catholique, ils sont vraiment au service des pauvres. Mais en Allemagne, c'est beaucoup plus, finalement, des assistants pastoraux. Ils ont un rôle liturgique important. Ils aident le clergé, ils aident le prêtre. Donc, il y a une grande diversité. Et c'est l'expérience diverse qui a fait avancer ces dernières années l'expérience sur le diaconat permanent. Enfin, je parle sous votre contrôle. Alors maintenant, quels sont les enjeux pour l'Église? Qu'est-ce que cela changerait si le pape ouvrait cette possibilité et que des conférences épiscopales les retenaient? Alors, de fait, les femmes exercent de plus en plus de responsabilités. Mais si on reste au statu quo, ok, les femmes, elles, on leur donne des responsabilités, on peut même leur en donner plus. Mais s'il n'y a pas d'ordination, si on leur donne encore plus, on ne reste pas dans un statu quo où il y a comme un plafond de verre? Je reprends l'expression du colloque qui a eu lieu samedi dernier à Boulogne sur être une femme dans l'Église aujourd'hui. Et il y en a plusieurs qui ont dit ça. Oui, on est responsable, mais jusqu'à un certain niveau, parce que lorsqu'il y a des décisions importantes, même qui relèvent de la catéchèse dont nous sommes responsables dans le diocèse, eh bien c'est quand même un prêtre, ou parfois encore, qui doit donner, enfin attester, confirmer, ou bien dire qu'il n'est pas d'accord. C'est-à-dire que la responsabilité, elle n'est pas assumée jusqu'au bout, souvent. Et qui plus est, elle a un aspect aléatoire. Nous avons tous connu des situations, peut-être même vécues nous-mêmes, ou bien voilà, quelque chose était fait comme ça dans une paroisse, dans un diocèse, le curé change, l'évêque change, eh bien, c'est terminé, on fait autrement, et les responsables femmes qui étaient là, eh bien, elles peuvent ou partir, ou il faut qu'elles modifient leur pastoral. Donc c'est pas très satisfaisant d'en rester là. D'autre part, il me semble que derrière le statu quo continuerait à rendre les femmes invisibles dans un certain lieu. Je veux dire par là, qui n'est pas frappé que dans les églises, ce sont uniquement les prêtres qui occupent le cœur. Où sont les femmes? Au mieux, on les voit pour une lecture, la distribution de la communion, et encore pas partout. Et que dire des liturgies d'ordination de prêtres ou d'évêques? Des dizaines, des centaines de prêtres, et les femmes un peu dans la nef. Mais l'Église paraît unisexuée. Et je veux dire qu'il y a quelque chose qui devient insupportable. Enfin, moi, je trouve que c'est difficile. Bon, donc, autre point aussi, le réalisme. Si c'est les besoins de l'Église et du monde, le soin des fidèles, cura animarum, comme on parle dans les textes officiels, qui détermine, bon, parce que le ministère diaconal de femmes n'existe pas de facto et pourrait trouver un statut, enfin, dans l'ordination diaconale, un statut plus normal. par rapport à ce qu'elles font. Que ce soit le service de la parole, de l'enseignement, de la charité, de la liturgie, toutes les animations liturgiques, des funérailles, etc. Donc ne serait-il pas fructueux d'aller dans une plus grande diversité de ministères? Nos origines sont plus riches que le modèle actuel. Si on regarde les Écritures, le Nouveau Testament, vous avez une diversité de ministères. Le flottement du vocabulaire est significatif de variations. Il y a les presbytéroi, c'est-à-dire par prêtre, les responsables de communauté, les femmes qui accueillent chez elles, les diaconos, tout un vocabulaire qui a mis des siècles finalement à se préciser et qui a conduit à, dans la réforme grégorienne, le Concile de Trente, à un seul modèle quasiment. Alors je vois bien que derrière ces sujets-là, qui sont souvent, qui font débat, qui suscitent des réactions, des mouvements de foule, le colloque de samedi c'était très intéressant, les applaudissements, les cris, enfin presque, parce que ça affecte. Et pourquoi ça affecte? Parce que je pense qu'il y a deux sujets qui sont liés. D'une part, il y a la relation clerc-laïque, et forcément les laïcs sont les femmes, mais il y a aussi la relation homme-femme, sur laquelle vous avez terminé. Et on peut se demander s'il n'y a pas des réactions qui sont des réactions de défense, de protection inconsciente quasiment, contre des peurs enfouies concernant la relation homme-femme, plus que clerc-laïque, ou pas seulement clerc-laïque. Alors un dernier point, je ne sais plus combien j'ai de temps. Quand j'ai parlé avec Étienne au téléphone avant-hier, Étienne m'a dit « Est-ce que tu fais quelque chose sur le diaconat et la vie religieuse ?» J'avais rien préparé du tout. J'avais pas... Donc j'ai réfléchi, puis avant-hier. Alors, d'abord, pour la vie religieuse masculine, ça ne se pose pas, puisque les religieux peuvent être diacres, prêtres. Ben, vous voyez, voilà, d'ailleurs, il y en a deux à cette table, à cette tribune. Bon, c'est donc pour les femmes. Alors je me suis dit d'abord, mais est-ce qu'on peut tout réfléchir à la fois Bon, puis je me dis non. En fait, tout ce que j'ai dit pour les femmes, c'est valable pour les religieuses, dans un premier temps. C'est-à-dire, les religieuses sont massivement dans le service, dans toutes sortes de services. Et ce que j'ai dit des divers rôles, missions, responsabilités qui sont confiées aux femmes, c'est presque a fortiori pour les religieuses. Et c'est vrai qu'il y a des religieuses qui ont des fonctions importantes, et que le pape François... travaille en ce sens. On voit bien qu'il nomme à la curie, dans des congrégations, une femme sous-secrétaire. C'est le numéro 3 d'un dicastère, mais c'est la première fois que ça arrive. Donc, ça, c'est une religieuse d'ailleurs. Au sein de l'Église, dans des communautés religieuses, les textes semblent... Mais alors, c'est difficile parce que est-ce que c'est entre tel ou tel texte qui se mentionne et l'ampleur du phénomène? C'est un peu difficile de voir. Il y a eu des abbesses diacres dans les monastères, notamment une dénommée Olympias, dont on parle dans un... Vous savez le texte, moi je ne le sais plus. Jean Chrysostome, voilà. Et quand une religieuse, ou une abbesse, exerce un vrai service de la parole, de la charité, de la liturgie, du gouvernement, quand on est abbesse, cela aurait peut-être du sens. J'ai toujours été frappée ces dernières années que lorsqu'un, dans les abbayes masculines, un frère moine était élu abbé, qu'il était frère, dans les 3 mois qui suivaient, il était ordonné diacre et prêtre. Parce qu'on estimait que pour présider à la communauté, il était important que ce soit un prêtre. Bon, est-ce qu'une diaconesse, ça serait pas aussi une piste? Dans ces cas-là, quand on voit les services que rendent les femmes, et parmi elles les religieuses, il ne s'agirait peut-être pas alors de faire autre chose que ce que font déjà les religieuses, mais de le faire autrement, différemment, avec un statut institutionnel dans l'Église, dans un diocèse. Être signe du Christ serviteur, c'est une belle mission et c'est une grâce. Parce que, comme on le disait à table tout à l'heure, on dit, mais quand même, une ordination, c'est une grâce sacramentelle. Et donc, donner cette grâce aux personnes qui exercent ces missions-là, peut-être, ça a du sens. Je dirais aussi, alors très pragmatiquement, que ça faciliterait certaines relations lorsqu'une religieuse a une mission diocésaine. Dans mes responsabilités qui ont été évoquées tout à l'heure, je me suis trouvée à aller rencontrer un vicaire général dans un diocèse. Comme je le connaissais, ça facilitait ma parole, mais quand même, il a bien senti que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait une Xavière qui était aumônier d'étudiants, à qui on promettait une lettre de mission depuis 5 ans, je crois, et qui ne l'avait toujours pas. Et la raison, c'était que le chancelier du diocèse n'était pas d'accord, parce que ça aurait été mettre le prêtre accompagnateur, mais qui faisait beaucoup moins de choses que la religieuse responsable, en situation d'obéissance à la religieuse qui avait la responsabilité. Donc c'était canoniquement pas possible, donc on ne pouvait pas faire de lettre de mission. Bon. Voilà, je dis que ça faciliterait peut-être certaines choses s'il y avait institutionnellement une reconnaissance, même si ce n'est pas le plus important. Par ailleurs, et ça c'est un point d'attention, il faudrait veiller, me semble-t-il, à ce qu'une hypothétique, je parle au conditionnel avec des hypothèses et tout ça, à ce qu'une hypothétique ordination diaconale de religieuse ne mette pas au second plan l'identité de la religieuse. Je veux dire par là que être religieux ou religieuse, c'est être engagé dans un style de vie particulier, la suite du Christ, participer à sa mission. Le style de vie, c'est les vœux, par exemple, c'est la vie communautaire. Et il y aurait peut-être un petit danger, mais ça se voit très bien chez les hommes, que certains prêtres, on ne sait pas trop s'ils sont diocésains ou religieux. Parce que le ministère semble, dans la visibilité, encore une fois, l'emporter sur l'identité profonde. Bref, vous l'aurez compris, je vois plus d'avantages que d'inconvénients. Je nuance ma pensée. Je vois plus d'avantages que d'inconvénients à ouvrir le diaconat permanent aux femmes. Et je souhaiterais que la nécessité de poursuivre la recherche historique, théologique notamment, ne renvoie pas la mise en œuvre au calendrier grec, parce que sinon... voilà. Alors je pensais qu'il y avait une nouvelle commission qui était mise sur le chantier, mais vous me dites que non, que le pape a l'air découragé.
Je dis que je ne sais rien.
Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Voilà, peut-être que dans l'ouverture que fait un peu le pape. Mais j'ajouterais aussi que sur ce sujet, comme sur d'autres, il est important d'écouter les femmes dans l'Église. Et j'allais dire pas seulement... des femmes parce qu'on dirait, mais elles réclament, elles rouspètent, ou je ne sais pas quoi encore, elles revendiquent. Non. Parce que c'est le 8 mars. Mais parce que il importe d'écouter ce que l'Esprit Saint dit à travers les femmes. Il parle aussi par les femmes. Elles sont de l'ordre du sensus fidei fidelium, comme dit la théologie. C'est-à-dire le sens de la foi des fidèles, elles en font partie. Et même derrière une revendication, on le sait bien, qu'est-ce qui se cache? Si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous font d'accompagnement spirituel, savent très bien que derrière un mouvement de colère peut se cacher autre chose. Mais tout éducateur le sait, tout parent le sait, tout psychologue le sait, bien sûr. Donc, écoutez l'Esprit Saint dans ce qui se dit chez les femmes. Parce qu'il faut mesurer... je le dis un peu de désolation, mais c'est vrai, je le constate, que bien des femmes, et des femmes qui ont eu des responsabilités dans les diocèses notamment, sont en train, sur la pointe des pieds, de s'éloigner de l'Église. Non pas du Christ, mais de l'Église. Parce qu'il y a une lassitude, parfois même une amertume, et ce n'est pas positif pour la croissance des communautés chrétiennes. En conclusion, je reprends, parce que vraiment je trouve que c'est plein d'actualité, la conclusion de Jean-Noël Besançon dans cet article de La Croix en 2001. Ouvrir de nouveau pour des chrétiennes l'accès à l'ordination diaconale ne relèverait pas d'une sorte de restauration archéologique, mais d'un choix pastoral prenant acte de la place que tiennent, de fait, aujourd'hui, bien des femmes dans nos communautés. Certaines exercent, aujourd'hui, une véritable diaconie, un service du monde au nom de l'Église. Leur ordination serait particulièrement significative d'un souci porté par toute l'Église et de son désir d'être au cœur de ce monde, le signe de la compassion maternelle du Père et de la présence aimante de Jésus serviteur. Ça a presque 20 ans, je signe. Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à Jean-Noël avec qui j'ai travaillé quand j'étais jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi à la Cato de Paris quand j'ai vécu. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé.
Merci beaucoup Joël. Merci beaucoup à tous les deux. Et il nous reste maintenant 25 minutes pour avoir un temps d'échange, de questions, de réactions. Alors peut-être je vais chercher un micro.
Besançon. T'es un prêtre du diocèse de Paris qui a été très longtemps curé à Saint-Jacques-de-Haut-Pas, qui a écrit des livres « Dieu n'est pas solitaire » ou « Dieu n'est pas bizarre », il n'y a pas des choses... Je vous dis, c'est un théologien pasteur. T'es directeur du LISPC longtemps, donc... Voilà.
Anita Sanchez, je voudrais poser une question sur la façon d'aborder la réflexion qui me semble toujours partir de la hiérarchie du ministère pour réfléchir à la femme diacre éventuellement. Et ça me semble difficile d'aborder la question sous ce point de vue-là, et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à conclure. Ça me fait penser à une structure mentale qui date du droit canon de 1917, qui commence par le pape, les évêques, enfin les archevêques, les évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, et tout en bas de la pyramide, le peuple de Dieu. Et cette mentalité a fait souvent dans l'Église que, eh bien, je suis baptisée, c'est bien, mais je vais être promue, je vais faire ma confirmation. Je vais être promue, je deviens prêtre. Je vais être promue, je vais pouvoir me marier. Je vais être promue, je deviendrai diacre. Et on voit bien aussi que les ministères dans nos paroisses, lorsqu'on est promu à une responsabilité, il y a une forme de cléricalisation parce que je m'accroche à la responsabilité qui m'est donnée. Est-ce que la décléricalisation et peut-être l'accès à un diaconat féminin ne serait pas enrichi par la démarche qui consiste peut-être à revenir de Saint Paul, il n'y a plus ni grec, ni homme, ni femme, à partir du baptême, selon le droit canon de 1983. En premier, le peuple de Dieu, mon baptême, mais je n'ai rien de plus à demander dans la vie que la présence de la Sainte Trinité en moi. Et tout ce qui vient en dessous est à mon service, au service de mon baptême. Alors je suis peut-être hérétique en disant ça, mais c'est ma vision. Et il me semble qu'en partant d'une réflexion sur le baptême et ce qui est nécessaire pour aider les baptisés, alors pour aider un baptisé adulte, il va être confirmé, pour aider un baptisé à se marier avec quelqu'un d'autre, comme disait le père Hénaud à Bruxelles, c'est très difficile pour un baptisé d'épouser un autre puisqu'il est épousé par Dieu. Donc il faut un sacrement pour les aider à vivre ensemble leur baptême. Bon, voilà, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que réfléchir à un diaconat féminin à partir d'une hiérarchie d'un ministère ne bloque pas complètement les choses? Est-ce qu'il ne faut pas repartir du baptême en disant « mais le baptisé a tout ». Il ne lui manque rien.
Merci.
Merci à la personne là qui m'a précédée, parce que Raymond Stéline, parce que je suis tout à fait... Je continue dans l'hérésie.
Votre micro marche, oui.
Je n'en ai pas besoin, mais enfin, je crois qu'il marche, là, non? Je déteste ce genre d'engin parce que ça empêche l'Esprit Saint de parler correctement. Enfin, merci à Joël Ferry.
Ça permet au non-entendant de l'entendre.
Non, merci à Joël Ferry parce que j'ai surtout entendu elle parce que j'arrive du Sénat où les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses. Donc, j'ai beaucoup aimé le diaconat féminin. Est-il dangereux? Vous voyez, je suis juste dans la... Alors, donc, j'ai malheureusement pas pu vous entendre beaucoup. J'enclenche vraiment... ce que j'ai entendu, qui m'a beaucoup fait plaisir, donc priver le peuple de la grâce du sacrement. Et moi, je crois que l'Église catholique, moi, je vais me mettre debout parce que on est quand même mieux debout, parce que je suis danseuse et que je crois que les danseurs, ils doivent apprendre l'usage du corps à l'humanité et que le logos fait chair aurait beaucoup à apprendre des danseurs. Bon, ça, c'est une parenthèse. Priver le peuple de la grâce du sacrement. Pour moi, ce qui importe tous les matins, c'est de savoir où je vais à la messe. Parce que c'est vraiment une catastrophe si je ne peux pas y aller. Puis je ne vis pas toujours à Paris. À Paris, ça va. Mais quand je suis dans les montagnes suisses, je vous assure que parfois, je dois faire vraiment des kilomètres à pied pour aller à la messe. Mais enfin, je le fais. Je me demande si on ne devrait pas juste se contenter du diaconat pour tout le monde. Vous voyez, parce que je me demande si le sacrement de l'ordre, c'est pas mal, mais je me demande s'il n'est pas dangereux. Parce qu'il il apporte beaucoup d'orgueil et que donc c'est vraiment dommage d'aller au-delà du sacrement de l'ordre. Et alors maintenant, juste pour finir, je suis retournée dans mon village, dans le Valais, où j'ai déjà pas mal parlé à Jean-Marie Lovet, qui est l'évêque de Sion. Parce qu'il porte le même prénom que j'aurais porté si j'avais été un homme. Il s'appelle Jean-Marie. Et moi, je me serais appelée Jean-Marie si j'avais été un homme. Et je serais devenue prêtre. Et peut-être ce serait moi l'évêque de Sion, je lui ai dit. Donc j'ai... enfin bon, je me demande... Si... Alors donc, je suis rentrée le 8 décembre pour assister à l'ordination de Pablo Pico, qui a été ordonné à Lens, un village du Valais. Et finalement, le jour même, j'ai entendu l'Esprit Saint me dire que finalement, c'était beaucoup mieux d'aller à la Lucerne clinique, où il y a un prêtre très âgé, dont j'ai justement cru que j'allais le voir pour la dernière fois, et puis qui parlait de son enterrement. Enfin bon, c'était assez dramatique. Et finalement, il continue à venir dire la messe. Et moi, ce jour-là, lors de l'ordination, je ne suis pas allée à la rencontre de Jean-Marie Lovet, parce que je me suis dit, de toute façon, il ne m'écoutera pas. Et donc, je suis allée à la messe du dimanche chez ce vieux prêtre âgé. Et il m'a apporté encore plein de choses depuis cette ordination. Mais vraiment, je crois que le sacrement de l'ordre est dangereux parce qu'il amène trop d'orgueil dans notre Église. Alors, on pourrait peut-être le supprimer et puis comme ça, il resterait que le diaconat.
Encore Vincent. Oui, j'ai une autre question pour Bernard Potier. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que en fait, j'ai pas l'impression, mais ça peut-être si c'est pas vrai, tu peux me corriger. J'ai pas l'impression que ça nécessite encore beaucoup d'investigations. J'ai l'impression que les investigations possibles, les travaux possibles ont déjà été faits historiquement. J'ai appris qu'il y avait des diaconesses donc jusqu'au XIIe siècle quand même. Donc ça c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je pensais que c'était plutôt au premier siècle. Il semble aussi j'aimerais savoir aussi pourquoi les églises orientales, qui avaient des diaconesses, n'en ont plus, ou bien s'il y en a encore dans certaines églises orientales. Ça, c'est intéressant. Une des objections qu'on avait faites, que j'avais entendues, c'était qu'en fait, les diaconesses, il y avait des diaconesses parce qu'en fait, les baptêmes, c'était, on était baptisés tout nus, et donc pour des femmes, pour des questions de pudeur, c'est bien que ce soit une femme qui le fasse. Et donc, comme maintenant, c'est plus ce rituel qui est là, est-ce que c'est vraiment des diaconesses? Bon, en fait, cette objection-là n'a pas l'air de tenir, puisque visiblement, il y avait diaconesse jusqu'au XIIe siècle. Est-ce qu'il y a des témoignages aussi sur ce que faisaient ces diaconesses? Parce qu'apparemment, il y a très peu de témoignages. On a des témoignages sur les rites. Il y avait des diaconesses, mais on n'avait pas de témoignages apparemment, mais il y en a quand même. Avec ça, on aurait fait un peu le tour de la question au niveau historique. Parce que alors du coup, s'il n'y a rien qui tient, la seule chose qui tient, c'est la peur de changer, quoi, ou la peur de faire quelque chose de nouveau, ou de refaire quelque chose de... Voilà. Il y a une deuxième question que je voulais poser à Bernard, c'est la question de, en fait, j'ai aussi l'impression qu'en fait, il y a la peur que la femme devienne diacre, et que les diacres peuvent devenir prêtres, et les prêtres peuvent devenir évêques, parce qu'il y a la hiérarchie du sacrement de l'ordre. Et moi aussi, ça me gêne depuis longtemps que les prêtres soient d'abord des diacres. Enfin, c'est sympa, parce qu'on doit tous être des serviteurs, mais est-ce qu'il faut vraiment cette hiérarchie d'ordination, et qu'effectivement, je pense que c'est une thèse que tu défendais d'ailleurs, que le fait que les prêtres soient ordonnés, ou les diacres soient ordonnés, mais pas pour être prêtre, il faut d'abord être diacre, ça pourrait aussi être plus facile pour l'accès au sacrement de diacre des femmes. Donc, c'est un peu les deux questions. Voilà.
Est-ce que vous préférez répondre maintenant ou est-ce qu'il y a encore monsieur encore deux questions. Peut-être que vous répondez maintenant et puis après, on prendra un autre...
Paquet.
Anita Sanchez, nous nous connaissons, je crois, non ? Nous nous connaissons ? C'est ça, oui. Est-ce qu'il y a de l'orgueil dans le sacrement de l'ordre, etc. ? Est-ce que la hiérarchisation n'est pas un obstacle au changement ? Moi, je pense, en effet, qu'il y a une manière d'envisager, disons, la hiérarchie de l'Église très pyramidale, comme vous dites, hein, qui n'est pas vraiment chrétienne, finalement, ou évangélique, hein. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer les prêtres, les évêques? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau de l'esprit, si c'est ça le but de l'ordre, bon, mais ça, je crois qu'on est à côté, hein. Et en même temps, je crois que c'est une réalité. Moi, je dois dire que quand j'étais à Rome, je n'y allais pas souvent du tout, enfin, ni jamais, à vrai dire. Quand on m'a invité à la CTI, ben j'ai été un peu choqué de voir tout ça autour de moi et ça m'a un peu énervé, etc. quoi, hein, parce que il y a tout un folklore là autour qui, moi je suis d'accord avec vous, hein, il faut être plus évangélique. Est-ce que supprimer les choses ne nous mettrait pas tous au même niveau? Oui, évidemment, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? J'en sais rien. Alors.
Je vais peut-être compléter alors.
Oui.
Oui, alors moi je dirais que je suis tout à fait d'accord pour dire que le baptême c'est le plus important. Et oui, ça, c'est ce qui est commun à tout chrétien, c'est d'être baptisé et d'être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Mais est-ce que ça empêche, enfin, je veux dire, de toute façon il y a le réel aussi, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, je veux dire, on ne part pas d'une image idéale qui serait qu'il n'y ait que des baptisés et pas d'autres éléments de hiérarchie. Dans l'organisation d'une communauté chrétienne, je pourrais dire pratiquement dans un groupe, il faut toujours qu'il y ait une organisation. Mais plus fondamentalement, je pense qu'une des fonctions du sacerdoce, alors je parle du sacerdoce ministériel, c'est aussi d'être témoin dans la communauté, une forme d'altérité, que la communauté n'est pas le Christ, et qu'elle se réfère, qu'elle cherche à vivre du Christ, et que ça c'est l'altérité qui est nécessaire. Alors après, l'organisation de l'Église, comme on l'a dit, elle n'est pas, le diaconat n'est pas dans l'Évangile, il est chez les apôtres, après il y a eu des tas d'autres choses, mais c'est pour le bien de la communauté. C'est pas le manque d'une personne qui va faire. C'est toujours le bien de la communauté et la mission. C'est ça les critères.
Je réponds à d'autres choses maintenant à propos des orthodoxes. Donc, dans les églises orientales, orthodoxes ou autres, il y a en effet quelques églises qui ont conservé le diaconat féminin, pas beaucoup, mais ça ressemblait très fort finalement à nos religieuses, hein, je dirais. Mais très curieux, donc le pape François a demandé en août 2016 de réfléchir au diaconat féminin. Le patriarcat d'Alexandrie a trouvé que c'était intéressant de mettre ça à son programme je crois, en novembre 2016, et ils ont déclaré en un seul synode que c'était fait, que c'était bon, hein, qu'on pouvait ordonner des diaconesses. Et en février 2017, ils ont procédé aux premières ordinations diaconales féminines. Donc, vous voyez que du côté de l'Église orthodoxe, à la fois la tradition est plus présente, et à la fois, ils sont tout de suite passés à l'acte. Hein. Mais je dirais que c'est aussi une toute petite Église. Hein. Donc, par rapport au nombre de millions de fidèles, bon, si ça engage moins que dans une Église catholique où on est avec un paquebot énorme et que toute décision a des retentissements partout dans le monde. Hein. À Liège, l'évêque Jean-Pierre Delville, que tu connais, hein, a assisté à des ordinations de diaconesse, je ne sais plus, en 2018, je crois. Mais le rôle de diaconesse, là, par exemple, il en a ordonné 18, pas lui. Hein, l'évêque syriaque orthodoxe a ordonné des diaconesses et l'évêque catholique était présent. Mais la moitié de ces diaconesses, de 18, je crois, étaient chantres. Leur mission était de chanter l'office. Oui, mais c'est important dans une église où on doit chanter en syriaque, hein, ce qu'il faut déjà une formation, etc. Et puis c'est un rôle important dans la liturgie de cette église. Donc voilà, là leur rôle pour la moitié, c'était ce rôle-là. Hein. La question des études qui ont déjà été faites, oui, elles ont déjà toutes été faites, mais je crois que plus on étudie, plus on élargit le consensus, je crois. Les études sont très polarisées et au fur et à mesure où on avance, ça j'ai remarqué dans tous les travaux de groupe, hein, où on étudie un sujet même très objectif, on peut dire dès le point de départ on a les grandes lignes, mais en discutant, on se met de plus en plus d'accord sur une vision d'ensemble, je crois. Donc à mon avis, les études restent assez nécessaires, mais moi je suis pour une, comme tu le rappelais, pour une distinction de l'ordination diaconale et presbytérale. En disant, est-ce qu'il est nécessaire que le prêtre soit diacre avant d'être prêtre? Moi, je proposerais, c'est une hypothèse, hein, qu'il y ait l'ordination diaconale pour les diacres permanents et une ordination presbytérale directement pour les prêtres. Hein. Et de nouveau, par le passé, c'était possible. Par le passé, il y a eu des ordinations, comme on dit, per saltum, ça veut dire où on ne devait pas faire tous les degrés d'eux. Et l'idée d'une échelle d'un cursus honorum est relativement, enfin c'est apparu à peu près au 4e, 5e siècle. Avant, il n'y avait pas cette idée qu'il fallait absolument faire tous les ordres mineurs, et puis etc., etc. Donc il y avait des ordinations per saltum. Le pape qui l'a supprimé, c'est Grégoire VII, qui a été ordonné per saltum. Hein. Donc il était diacre de Rome, il a été élu pape, et il a, quelques temps après, il a dit, maintenant c'est fini les ordinations per saltum, hein. Il faut toujours faire per gradum. Il faut donc faire tous les échelons. Et cette idée des échelons est importante parce que ça induit chez beaucoup l'idée que si les femmes sont diacres, évidemment, l'étape suivante, elles seront prêtres. Mais si on marque plus clairement que l'ordination diaconale est une chose, l'ordination presbytérale une autre, moi je crois que cette idée est un peu, exorcisée, parce que c'est une idée fausse, à mon avis. Hein. Et le diaconat permanent a bien souligné qu'être diacre permanent, c'est être entièrement quelque chose d'important, c'est pas transitoire vers quelque chose de plus important.
Il y avait encore deux autres questions, plus Fumi, on va les prendre. Peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout. Surtout que ça serait bien que Bernard dise un petit mot sur ce qu'il propose pour demain. Parce que demain matin, pour ceux qui le veulent, il y a une prolongation possible. Avec, voilà, ça serait bien que tu en dises un petit mot aussi pour.
Est-ce que ton micro fonctionne là?
Oui, il fonctionne.
Oui.
Oui, bonjour, Grégoire Fournier. J'ai une question concernant historiquement le statut matrimonial des femmes diacres, parce que aujourd'hui, par exemple, depuis Vatican II, finalement, le statut matrimonial des diacres est divisé en deux. Soit ils sont mariés, c'est des hommes, forcément. D'accord. Soit ils sont mariés, ils peuvent être diacres. Si leur femme décède, ils doivent rester veufs, non, ne pas se remarier. Et par contre, s'ils sont célibataires ou veufs, il y a carrément, enfin, c'est pas pareil que dans les ordres religieux, je pense, mais enfin, quelque chose qui ressemble à un vœu de célibat. C'est-à-dire, c'est la même chose que prononce le prêtre quand il est ordonné diacre avant d'être ordonné prêtre, donc un engagement, voilà. Donc, alors, j'ai une question. Voilà,
la précision est importante. Dans l'histoire, toutes les diaconesses ont toujours été célibataires ou veuves monogames. Donc vierge ou veuve monogame, ça veut dire veuve d'un premier mari sans avoir s'être remariée et éventuellement être une seconde fois veuve. Donc ça c'est très important parce que c'est la continence qui était imposée au clerc majeur. Puisqu'il y avait un clergé marié, c'est la continence qui est imposée aux évêques. Hein? Donc ça c'est pour aujourd'hui, si on voulait restituer quelque chose, est-ce qu'on restituerait un diaconat féminin qui serait en effet donc célibataire pour des vierges ou pour des veuves? Ça, c'est une question. Alors, est-ce qu'il y a eu des femmes diacres mariées? Eh bien, je pense que non. Ça ne veut pas dire que dans les textes, on ne trouve pas le mot diaconesse en disant qu'elle était l'épouse d'un tel vivant. Mais alors, c'était par abus de langage qu'on appelait diaconesse la femme du diacre. Comme d'ailleurs, on voit parfois presbytéra, hein, prêtresse si on veut, mais c'est par abus de langage pour dire la femme du prêtre. Et même épiscopa, épiscopissa, c'était la femme de l'évêque, mais qui à ce moment-là ne pouvait plus vivre avec son mari lorsqu'il était consacré ou ordonné évêque. Donc voilà, il y a des abus de langage, hein, mais qui ne doivent pas tromper. Dans la tradition, les femmes diacres ont toujours été donc tenues par un vœu de célibat et de chasteté, oui. Il y a même un décret, là, quelque part, qui dit que si elle rompt cette promesse, elle peut subir la peine capitale. Mais on n'a aucun exemple. Hein. On n'a aucun exemple, mais c'est écrit.
Donc, Martin Troupeau, diacre permanent, communauté Saint-Martin. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est qu'un diacre permanent? Théologiquement, est-ce qu'on arrive à articuler le diaconat avec le presbytérat et l'épiscopat? Est-ce que c'est suffisamment clair? Parce qu'on essaye d'articuler les diaconesses au diaconat, au diacre homme, mais est-ce que le diaconat est suffisamment stable théologiquement pour qu'on puisse réfléchir à autre chose?
Actuellement, il y a trois types de diaconat. Il y a trois possibilités d'être diacre. Il y a le diacre transitoire pour être prêtre. Il y a le diacre permanent marié, à partir de 35 ans, pas avant. Et le diacre permanent célibataire, à partir de 25 ans. C'est ça, je crois. Donc, il y a trois types, en effet. Cette diversité, est-ce qu'elle est signe d'instabilité ou est-ce qu'elle est signe de diversité? Alors, il y a la question de l'unité, ça veut dire quoi? Il me semble qu'avec Omnium Imentem de 2009 de Benoît XVI, on mettrait clairement d'un côté l'évêque et le prêtre, et d'un autre côté quand même le diacre. Alors, il y a trois degrés, mais ce n'est pas des degrés 1, 2, 3 linéaires. À mon avis, c'est 1, 2 et 3. Alors, bon, il y en a un qui peut être linéaire ici. C'est le diacre transitoire, mais les deux autres sont sur le côté, l'autre côté. Alors, l'unité, ça ne veut pas dire que ce qui est imposé à l'un doit être automatiquement imposé à tous. Hein. La Trinité, il y a une unité, mais il reste trois. Donc, c'est un peu dialectique. Ce n'est pas un plus un plus un. C'est je crois, prêtre-évêque et diacre. Moi, je crois que l'articulation doit se faire comme ça. C'est pas très symétrique pour nos esprits, d'accord, mais je crois que c'est l'articulation. Mais en fait, il y a trois formes de diaconat masculin pour l'instant. Et donc, le diaconat féminin serait équivalent à rien du tout, parce que si on impose le célibat à toutes les diaconesses, par exemple, hein, on réduit la possibilité masculine de 3 à 1.
Il y avait encore d'autres questions, mais je pense que si on veut terminer à l'heure, il va falloir arrêter là maintenant pour les questions. Est-ce que Bernard, tu peux dire un petit mot pour ce que tu proposes demain?
Alors, il est prévu demain de 9h30 à 12h30, donc un temps de travail, disons, de séminaire, entre guillemets. Hein. Alors, ce que je pourrais faire, c'est par exemple parler 45 minutes sur les aspects plus historiques. Ensuite, je proposerai que par petits groupes de 6, 8, par exemple, on lise un article que j'ai écrit avec Phyllis Zagano, justement, et qui a été publié dans Laval Philosophique et Théologique, un article de 9 pages. J'indiquerai un petit peu les pages les plus importantes. Et puis, après une pause, on pourrait avoir encore une heure de discussion sur la question. Je ne sais pas si ici il y a des amateurs, des gens qui ont le temps de faire cela. En tout cas, tous ceux qui sont ici, certainement, oui. Non, je ne crois pas. Non. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que parmi les personnes qui sont ici, certaines comptent venir? Ce serait intéressant de le savoir, oui. C'est ça, oui. Ça fait une bonne douzaine, quoi. Voilà, donc, un temps de parole, un temps de lecture, une pause, et puis un débat.
Eh bien, en tout cas, un très, très grand merci à Bernard et puis Joël pour ce que vous avez partagé. Voilà. Et pour pas mal d'entre vous, à demain.
Donc moi, j'ai une réunion de supérieur local demain. Tout le week-end. Donc, je suis pas là. En fait, j'étais très contente de faire votre connaissance.
Très bien.
Est-ce que je pense que j'ai un problème pour arriver à 9h30? Alors, est-ce qu'on vient au four de qu'on reste rapide?
Ah, moi, ça ne me dérange pas, oui. Oui, moi, ça ne me dérange pas.
J'aimerais bien discuter avec
Adam,
on a parlé
de... Ah ben oui, ah ben venez toujours, on verra bien comment s'organiser, oui.
Et comme je dis, moi, j'écoute l'Esprit Saint tous les matins, donc c'était pas du tout prévu que je vienne, enfin j'avais eu une oubliée qui avait encore... Alors 9h30, je pense que c'est vraiment pas
possible. Eh bien, venez quand vous pouvez, et alors on vous intégrera dans l'affaire. Bonjour Anita, ça va?
Oui,
ça va bien, oui. Vous êtes à Paris maintenant?
Je
suis retombé récemment sur votre mémoire.
Ah, vous savez,
c'était sur les proverbes, c'est ça?
Oui, et j'ai travaillé avec ça, la femme d'ailleurs. Vous êtes courage. Mais je n'ai jamais dit, je suis tombée.